Merci, mon père. Donc, je traite le sujet suivant, un peu plus limité que celui de l'intitulé « Culture et foi dans la formation de François Varillon ». La génération intellectuelle de 1905, celle qui n'a pas fait la guerre, mais qui a dû ensuite en assumer l'héritage, ne comprend pas seulement les petits camarades Sartre et Aron, ou encore Emmanuel Mounier. Elle comporte aussi une pléiade de grands jésuites, comme Pierre Gane et Donatien Mola, nés en 1904, Jean Danielou, André Ravier, Robert Rouquette et François Varillon, nés en 1905, Claude Mondésert, Pierre Lyonnais ou Henri Holstein, 1906. François Varillon s'y trouve donc en bonne compagnie, dans les deux sens du terme, mais qu'est-ce qui fait l'originalité de sa personnalité au sein de cette brillante cohorte jésuite? Ça n'est pas un théologien de métier, comme Danielou ou Gane, pas un pédagogue, comme André Ravier, pas un exégète, comme Donatien Mola, pas un prédicateur, bien qu'il ait beaucoup prêché, pas un spécialiste de l'apostolat, bien qu'il ait longtemps accompagné des mouvements importants. François Varillon a été un peu tout cela et beaucoup d'autres choses encore. Pour tenter de mieux le définir, un mot lourd de difficultés dans son parcours s'impose, celui de culture. Non seulement Varillon était pétri d'une culture exceptionnelle, mais il fut, sur Lyon et ailleurs, le mot a été prononcé hier soir dans un autre cadre, un grand médiateur ou passeur culturel. Vous me direz, rien d'étonnant à cela de la part d'un jésuite de sa trempe. Le poids des tâches d'enseignement dans l'histoire de la compagnie justifie la place faite aux humanités dans le cursus jésuite. Avec l'apprentissage des années de juvénat, puis la mise en pratique, dans un collège le plus souvent, des années de régence. Tout jésuite passé par ce moule est imprégné d'une culture classique à laquelle il s'est souvent déjà frotté en famille ou lors de ses études secondaires. À la différence d'un Danielou, par exemple, dans sa génération, Varillon n'est pas particulièrement avantagé de ce point de vue. Il n'est pas issu de l'une des grandes familles lyonnaises riches en vocation pour la compagnie, bien que la musique, écoutée et pratiquée, fasse partie de son patrimoine. Pourtant, la culture, et pas seulement la culture classique, occupe dans la formation, comme dans l'apostolat ultérieur du père Varillon, une place centrale, sans commune mesure avec ce qu'elle représente pour les membres déjà cités de sa cohorte jésuite. Elle se situe au cœur même de sa vocation, et ceci d'une manière originale parce que conflictuelle. Le problème de ma vocation était de concilier l'art et l'évangile, confiera-t-il bien plus tard à Charles Hellinger. La particularité de son cursus fait qu'il lui a fallu résoudre deux fois le dilemme. En effet, à la différence de Mola, Ravier, Mondésert ou Holstein, entrés au noviciat à 17-18 ans au terme de leurs études secondaires, François Varillon n'a pas acquis l'essentiel de sa culture au sein de la Compagnie de Jésus, mais avant d'y entrer. D'où un premier affrontement avec la relative étroitesse, du moins c'est ce qu'il pensait, de son bagage scolaire antérieur et bien sûr avec sa vocation naissante. Les 2 ans de noviciat et les 2 ans de philosophie effectués à la suite, sans coupure du juvénat jugé inutile puisqu'il était déjà licencié S-lettres, redoublent l'affrontement au point de mettre en question la compatibilité d'une vie religieuse jésuite avec la passion de la culture sous toutes ses formes. L'exposé qui suit s'efforce d'expliquer comment le jeune Varillon a résolu successivement ces 2 contradictions, c'est la même mais en 2 épisodes, pour devenir sans déchirement de conscience le jésuite que beaucoup d'entre vous ici ont connu. Afin de ne pas répéter ce qu'il a si bien dit lui-même à Charles Hellinger, quoique de façon elliptique et parfois imprécise, y compris sur son propre parcours, je m'appuierai le plus possible pour ce faire sur les bribes documentaires conservées dans les archives de la compagnie, ou publiées. D'abord parce que l'historien préfère toujours avoir du document frais, du document d'époque. Ensuite parce que rien ne remplace l'émotion de la redécouverte d'une note ou d'une lettre qui ont infléchi de manière décisive, déterminante le cours d'une vie. Je songe bien sûr à la première lettre à Claudel que je vous lirai tout à l'heure du 15 mars 1934, mais aussi, hors de mon propos aujourd'hui, celle d'Alain Barrère du 25 novembre 1945, pressant le jésuite, de manière très insistante, d'accepter l'aumônerie nationale adjointe de l'Association catholique de la...